retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission hebdomadaire de Comaguerre sous la forme des carnets. Merci de retrouver l'équipe de Comaguerre qui est là. Habib, bonjour. Roselyne, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Sidi qui est finalement aux commandes. On va commencer par quelques petites brèves et puis on accordera un long moment à une interview de Monika Karbowska au sujet du procès Assange, puisqu'elle est un des témoins les plus fidèles, puisqu'elle se rend à Londres, elle arrive, malgré son emploi du temps, son travail, elle arrive à s'organiser pour aller à Londres pratiquement à chacune des audiences qui a lieu. Elle en est à plus d'une dizaine déjà et ça va continuer, elle nous en parlera. Mais on va commencer par quelques brèves et puis on finira par un tour vers la Moscou, parce que la Russie a un nouveau gouvernement et ça mérite qu'on fasse quelques commentaires sur cette nouvelle équipe. Mais commençons par les brèves. Alors les brèves, très brèves, sur les élections régionales en Italie. Alors vous savez que les élections en Italie, c'est compliqué, que certaines régions votent, pas d'autres, tout le monde ne vote pas à la fois. Mais il y a un enseignement qui se tire des votes de ce dimanche, c'est-à-dire qu'il y a une polarisation électorale sur les partis traditionnels, disons le centre-gauche et le centre-droit, et l'information la plus importante, c'est des petits partis qui voudraient apporter un air frais, des pratiques nouvelles, etc., s'écroulent totalement avec moins de 1% dans certains cas des voix, et que, y compris les 5 étoiles, qui ont fait un peu meilleur que 1%, mais ont disparu pratiquement de la scène politique, au moins en Émilie-Romagne, dans la principale région qui intéressait l'opinion. Ça veut dire que le mouvement des 5 étoiles, comme d'autres mouvements issus de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, des mobilisations par Internet et tout, est un mouvement sans racines profondes, faible, et qui disparaît quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il peut être à 15% des voix aux européennes et être à 2% dans une élection régionale qui suit à quelques mois d'intervalle. Alors, cette crise du mouvement des 5 étoiles, il y en aura d'autres dans des mouvements analogues. On verra bien ce que donne le nouveau gouvernement espagnol avec Podemos. Cette crise a été traduite avant même le scrutin de dimanche par la démission de Luigi Di Maio, qui est quand même vice-premier ministre d'Italie, de son poste de dirigeant du mouvement des 5 étoiles, parce que le mouvement des 5 étoiles, il est en crise, crise qui a été entérinée par les électeurs. Alors ce qu'il y a d'intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est qu'un certain nombre de gens qui ont voté pour les 5 étoiles comme quelque chose d'alternatif, de nouveau et tout, aux européennes, ont dit que là, il fallait être efficace, il fallait barrer la voie aux amis de M. Salvini, et donc ils ont voté pour le Parti démocrate, lointain héritier du Parti communiste, qui est un parti de centre-gauche, qui a géré l'Italie sous Renzi, avec Prodi, etc. Bon, le centre-gauche, pro-européen, tout ce qu'il y a de classique, aucune surprise. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les élections italiennes, je n'en dirai pas plus. Je reviens ensuite sur la tension, c'est le mot est gentil, entre l'Iran et les États-Unis, pour dire qu'il est apparu, maintenant elles sont officielles, des informations sur le fait qu'un certain nombre de soldats qui étaient dans la base de Al-Azad de l'armée irako-états-unienne, je fais simple, ont été blessés. Alors le chiffre est officiel, c'est 34 blessés, dont la majorité ont été tout de suite exportés vers l'Allemagne. Certains ont même regagné leur base, leur cavet, leur cantonnement, là d'où ils venaient aux États-Unis. Mais ce qu'il y a de très intéressant, je m'arrête là-dessus, c'est que ces 34 blessés souffrent de traumatismes psychologiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été touchés par des éclats de missiles, traumatismes psychologiques. Ça veut dire, alors j'interprète ça, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas. Ça veut dire que ces officiers, sous-officiers de l'armée des États-Unis, invincibles, se sont trouvés sous le tir de missiles iraniens qui ne les visaient pas, puisque les Iraniens ont confirmé qu'ils ne voulaient pas tuer quelqu'un, ils voulaient seulement montrer que quand ils décidaient de tirer sur une base américaine, ils y arrivaient, quoi que veuille l'armée des États-Unis. Mais l'effet de choc, c'est-à-dire de voir tomber des missiles dans le camp dont on est les maîtres et on pense qu'on est invincible, ça les a mis dans une situation de stress psychologique et de crise psychologique grave. Ils sont en soins. Ils vont mal dans leur tête. Voilà. Bon, donc ça c'est officiel, 34 blessés, donc 34 choqués par le fait que des soldats des États-Unis, entretenus dans cette idée de l'invincibilité et de l'énormité des moyens à leur disposition, voient arriver un missile venu, j'allais dire, du tiers-monde, qui touche sa cible, que rien n'a pu arrêter, et ils ont de la peine à s'en remettre. Alors, je ne leur fais pas de mal à eux. Je pense, j'espère aussi que du côté de M. Pompeo, du côté de M. Esper, on aura aussi du mal à s'en remettre. Et je pense qu'en partie, on va y arriver. C'est-à-dire que du point de vue des responsables des États-Unis, on va se dire, mais attendez, quand ils veulent, ils arrivent à toucher nos camps militaires à distance, avec une extrême précision. Et cette inquiétude est partagée à Tel Aviv. Parce qu'il s'est dit à Tel Aviv, au moment où on parle du traité de non-prolifération nucléaire, qu'il y a dans le désert du Negev une installation où sont fabriquées les bombes atomiques israéliennes, et qu'au fond, si ces diables d'Iraniens décidaient d'envoyer des missiles sur ces installations nucléaires, peut-être elles arriveraient au but. Alors là, on cauchemarde sérieux, comme dirait l'autre, chez Netanyahou et chez son candidat, son concurrent aux élections. Aux futures élections. Voilà. On en est là et je reparlerai à l'occasion, parce que ça va se dérouler dans les semaines qui viennent, de la question du traité de non-prolifération nucléaire, puisque, et je finis là-dessus puisque ça c'est un tout, c'est que le Parlement iranien vient de voter une motion demandant à ce que l'Iran sorte du traité de non-prolifération. En disant, nous on était d'accord quand les États-Unis et les quatre autres avaient dit qu'ils nous redonnaient notre liberté d'agir, notre liberté économique et tout, pour dire qu'on confirme qu'on ne cherche pas à avoir l'arme nucléaire. À partir du moment où les États-Unis se retirent et qu'Israël continue à avoir, la planète entière le sait, 200 ou 300 bombes atomiques, peut-être autant que la France aujourd'hui, nous ne sommes plus protégés par rien et donc on décide de sortir du traité de non-prolifération. Que le message soit bien entendu à Washington. Je pense qu'il va faire son chemin. Alors on va bien entendu diaboliser les Iraniens. Il n'empêche que le vote est intervenu. Alors c'est simplement une motion, mais déjà le ministre des Affaires étrangères iranien avait tenu des propos semblables il y a quelques jours. Ça y est, on est en train, enfin les Iraniens sont en train, comme d'autres, de déterrer la hache de guerre parce que l'adversaire a sorti la sienne et il n'a jamais même voulu l'enterrer. Voilà. Donc c'est tout à fait clair. Voilà.
Surtout que les Européens n'ont pas suivi.
Et que voilà, et les Européens qui auraient pu dire nous on continue cet accord puisque nous on l'avons signé, ils sont comportés comme des larbins, hein, soyons clairs. Alors puisque je suis sur le thème des larbins, on a encore été gâtés cette semaine puisque le président de la République française a reçu un ancien élu vénézuélien à qui on a voulu faire croire qu'il était le président du Venezuela comme s'il était encore quelque chose. Bon, alors que M. Attila, Jacques Attila, que M. Attali le reçoive et mange un morceau avec lui, peu importe, hein, mais que le président de la République française se fasse photographier et reçoive très officiellement une espèce de dissident financé très lourdement par la NED et par la CIA, là, il y a une faute diplomatique grave. Mais ce n'est pas la première de cette équipe extraordinaire qui sévit aujourd'hui encore à l'Élysée. Bien, on va passer maintenant donc à la deuxième partie de ce programme, qui est donc une interview réalisée hier soir par téléphone de Monica Karbowska, qui est donc allée à Londres à différentes occasions ces dernières semaines pour suivre l'évolution du procès Julian Assange. Alors c'est un procès qu'il faut resituer. Alors, Julian Assange est en prison de différentes façons depuis pratiquement 10 ans sur le territoire de la Grande-Bretagne. Peu importe les étapes, mais enfin, il y est toujours. Et c'est un procès qui est donc le procès qui est en cours en ce moment. C'est un procès. Donc la justice britannique, j'insiste là-dessus, n'a rien à lui reprocher puisqu'il avait commis une petite infraction qui était de ne pas respecter les règles du droit de séjour qu'il avait obtenu, c'est tout. Ça, il a purgé cette peine, donc à la date d'aujourd'hui, M. Julian Assange devrait être libre sur le territoire de la Grande-Bretagne. Je rappelle qu'il est citoyen australien, en plus. Bon. Et donc il ne l'est pas. Et M. Assange est détenu par la Grande-Bretagne parce que les États-Unis ont demandé son extradition. Le procès dont on parle, c'est le procès uniquement de la demande d'extradition faite par les États-Unis. C'est de ça que Monica Karbowska va nous parler et on la laisse nous raconter parce qu'elle a l'avantage, elle n'est pas journaliste, elle fait ça comme militante et elle regarde comment fonctionne concrètement un procès, une justice dans une affaire qui est grave, qui est très sensible politiquement, on l'a compris. Et en fait, on se rend compte à l'écouter, vous allez le faire, que la machine judiciaire, alors c'est pas simplement des textes, quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison, tout. C'est une machine à broyer des individus quand elle se met à décider de le faire. Et c'est ça que le témoignage de Monica permet de bien comprendre. Voilà, donc on l'écoute. Merci, Sylvie. À tout à l'heure.
Bonjour, bonsoir Monica. Merci bonsoir. D'être avec nous sur l'antenne. Voilà, on revient vers toi pour que tu nous fasses le point sur les derniers développements du procès Assange à Londres. Donc, autour de deux voyages que tu as faits, parmi les nombreux autres que tu as déjà faits, à savoir donc celui du 13, l'audience du 13 janvier, et celle de vendredi dernier, 23. Voilà, on commence par le 13, puisque là, vous avez enfin vu si Assange était vivant, ce qui est déjà un élément important.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Je vais revenir sur cette audience du 13 janvier, qui d'ailleurs était programmée pour le 14. Ça devait être simplement une audience qu'ils appellent le call-over hearing, c'est-à-dire la prolongation de la détention provisoire tous les 28 jours. Donc le 19 décembre, lors de l'audience du 19 décembre, cette audience du 28 jours de détention, de prolongation de détention provisoire, avait été programmée pour le 14, le mardi 14. Or, il se trouve que le 10 janvier, le matin du vendredi, donc, nous avons appris, et ça c'est tout à fait possible, la Cour a le droit de déplacer une audience, malheureusement, d'une journée à une autre et à la dernière minute, nous avons appris que l'audience du 14 était déplacée au 13. Alors bien sûr, c'était pas très bien pour tous les militants, pour tous les supporters, parce qu'il fallait se mobiliser, il fallait trouver un moyen d'aller déplacer nos billets et d'aller à Londres à une journée plus tôt.
Bien sûr.
J'ai réussi à faire.
Bon,
bravo. Quelques autres militants de Wikijustice ont réussi à faire. Et là, par contre, ce qui était positif, c'est que peut-être sous la pression populaire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la pression, nous exerçons aussi une pression sur les avocats, notamment en déposant nos requêtes de libération,
bien
et
sûr.
En les envoyant aussi aux avocats en leur disant voilà ce que vous pouvez faire. Ouais. Nous avons quand même fait exercer, pas simplement Wikijustice, mais aussi d'autres militants, une certaine pression sur les avocats pour que l'avocat Gary Pierce demande une comparution physique de Julian Assange. Puisque la Cour lui donnait cette possibilité à chaque fois, la juge, hein, qui n'est quand même pas une personne d'une grande tendresse, disait à Gareth Pierce, vous avez le droit de demander une comparution physique.
Ah, c'est la juge elle-même.
Gareth Pierce ne faisait pas.
C'est la juge elle-même qui le demande et il ne le fait pas, ça alors.
Voilà, alors voilà quand même, hein, et quand même c'est une juge qui n'est pas du tout du côté de Julian Assange, mais malgré tout, elle respectait une certaine procédure en permettant à Gareth Pierce de déposer cette demande de comparution physique. Finalement, l'avocate de Julian Assange l'a fait. Et elle a donc obtenu cette comparution physique qui était donc programmée pour lundi. Donc c'était quand même très important d'être là puisqu'il s'agissait de voir Julian Assange, de voir
exactement.
Comment il va et s'il est justement vivant. Comme nous avons déposé aussi et envoyé un rapport de notre médecin qui assistait à l'audience du 19 décembre, même si l'audience du 19 décembre c'était une comparution par vidéo, la docteure Lavallée qui a fait ce rapport pour Wikijustice a pu quand même écrire un rapport médical sur ce qu'elle a vu, bien sûr toutes précautions prises. Et comme nous avons envoyé ce rapport un peu partout, il existe de fortes suspicions que Julian Assange soit torturé puisqu'il présente des symptômes de torture. Et donc je pense que le tribunal et la prison, surtout le directeur de prison, voulaient aussi se dédouaner en montrant Julian Assange, en montrant qu'il est toujours vivant, qu'il n'est peut-être pas si mal, etc.
Torture physique ou psychologique sous forme de médication, non ?
En fait, si vous voyez le rapport du docteur Lavallée, ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, il n'y a pas dans les textes sur la torture de distinction entre torture physique et psychologique.
D'accord.
Tout ce qui est torture en réalité. Et c'est la même responsabilité, c'est-à-dire la privation sensorielle, l'isolement, c'est aussi considéré, c'est au même degré, j'ai envie de dire, de gravité que la torture physique, les coups, la privation de sommeil, la privation de nourriture, etc. Tout ça, c'est la même torture, en fait. Donc, nous ne savons pas de quelle façon Julian Assange est torturé. Il y a aussi la torture invisible. On peut aussi frapper quelqu'un et ça ne se voit pas.
Bien sûr.
Donc, évidemment, et en plus de loin, on ne peut pas le savoir.
Ouais.
Mais ce qui apporte, ce sont les symptômes. Ce qu'on voit, c'est les symptômes. Et après, c'est quand même à l'enquête, il doit y avoir une enquête qui démontrera qui a fait, qui est responsable de cela et qu'est-ce qui s'est passé et comment va Julian Assange, en fait. Et donc, le fait que cette histoire de torture revienne au premier plan, c'est très important puisque, déjà, déjà le rapporteur de l'ONU qui, bon, depuis le mois de mai, n'est pas venu visiter Julian Assange. Mais quand même, même son rapport du mois de mai parlait de torture. Donc là, on est en train de corroborer des faits qui ont déjà été pointés depuis le mois de mai.
Très bien.
Donc voilà, je pense que la Cour voulait nous montrer Julian Assange pour montrer qu'il est physiquement vivant et qu'il est capable de tenir une audience. Or, nous avons vu exactement l'inverse. Donc, pour vous raconter rapidement la chose, d'une part, c'est toujours très dur, hein, parce qu'on est toujours obligé d'attendre 5 heures avant de rentrer au tribunal. Il faut toujours venir très tôt et de plus en plus tôt. Maintenant, il faut carrément venir à 5h, 5h30 du matin, puisque, disons que les personnes... les supporters officiels dirigés par la femme qui se fait appeler Grikemi et qui pendant longtemps nous empêchait de rentrer quand même dans la salle d'audience, ils sont là aussi très tôt. Et comme il y a peu de place dans la salle d'audience, si on n'arrive pas très tôt, nous n'aurons aucune place en fait. Donc nous arrivons à 5h30 et on est obligé de rester debout jusqu'à l'ouverture du tribunal à 9h. Et puis après, on a été obligé le 13 janvier de rester debout encore 2 heures après, puisque Julian Assange n'a comparu qu'à 11h. Donc on était installé une fois qu'on était à l'intérieur du tribunal, les huissiers et les agents de sécurité, et notamment la personne qui est la chef des huissiers, qui elle, en l'occurrence, respecte les règles, alors qu'avant, les agents de sécurité ne respectaient pas les règles. Depuis que c'est elle qui a pris en main les choses, suite à nos courriers, les règles sont respectées, c'est-à-dire c'est le premier arrivé qui est le premier servi. C'est-à-dire que c'est en ordre d'arrivée qu'on est placé en file indienne devant la porte de l'audience et on attend comme ça jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Bien sûr, c'est très dur, hein. Il faut être debout.
Bien sûr.
On a déjà 3 heures dans les pattes. Mais c'est comme ça, on préfère cela plutôt que les listes illégales qui avaient lieu avant, qui faisaient qu'on ne pouvait pas accéder au tribunal parce que des gens passaient devant notre nez alors qu'ils n'avaient même pas fait la queue.
Très bien.
Donc voilà, il y avait aussi pas mal de journalistes, je voulais le souligner. Il y avait au moins 25 journalistes. Beaucoup étaient des journalistes que Julian Assange avait déjà connus avant, qui étaient aussi en collaboration, j'ai envie de dire, avec la personne qui se fait appeler Grikemi, qui se parlait ensemble. Parmi les journalistes, il y avait Joseph Farrell, qui est entre guillemets maintenant présenté comme l'ambassadeur de Wikileaks. Il y avait aussi des journalistes qu'on a entreaperçus, comme le journaliste d'Australian Associated Press. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait aussi une personne de Wikijustice qui avait une carte de presse et qui est rentrée et qui fera son rapport bientôt.
D'accord.
Bon. Donc voilà, c'est très important que les journalistes soient là. Dis-moi, je reste un peu sur ma faim parce que par rapport à une audience qui a duré 45 minutes, je n'ai pas vu vraiment de papier très conséquent et d'analyse très conséquente de la part de ces personnes. Donc parfois, je me demande à quoi ça sert qu'ils rentrent dans la salle puisqu'ils n'écrivent rien ou rien que des petits trucs succincts de 10 lignes en fait. Hein. Le but, c'est pas d'écrire 10 lignes rapidement quelque chose. Le but, c'est quand même d'analyser ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas réellement été fait.
Ça, ils le font pas. Voilà. Heureusement que tu es là pour le faire pour nous.
Hein. Oui.
Non, mais c'est vrai. Oui, voilà. On est
et que je n'ai pas de carte de presse et que je suis obligée de faire du public. Donc derrière, là, il y a de nouveau deux boxes vitrées, n'est-ce pas? Il y a deux vitres qui nous séparent de Julian Assange.
Oui, quand même.
Voilà. Et en plus, donc on était une quarantaine de personnes à prendre place dans le public. Julian Assange a été avant le début de l'audience, donc effectivement, nous avons pu le saluer. Ça s'est fait même assez spontanément, je dois dire. J'étais même étonnée que la Cour nous permette de faire ça, parce que le 21 octobre, il n'a pas été possible de faire ça. On nous avait dit qu'on a le droit à un salut, et après, terminé. Toute personne qui lève la main sera individuellement sortie. Or là, ce qui s'est passé, c'est que moi, au début, je ne savais pas si je peux le saluer. Je me suis dit, je me mets en danger ma présence, etc. Mais en fait, j'ai fait un signe de la main au niveau du visage, en fait, en me disant, on ne pourra pas me dire que je lève la main au niveau de mon visage. Je peux très bien me gratter le nez, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Puis, il s'est trouvé qu'une femme devant moi a carrément levé la main pour le saluer.
Bon,
ça a été un signe. Voilà.
Et lui, il est dans une position...
Il a levé la main pour le saluer.
Il est dans une position où il vous voit. Il vous voit facilement.
Voilà, ça a été très émouvant. Les agents de sécurité n'ont rien dit. Julian Assange nous a répondu. Il nous a salué au niveau de la tête. En fait, il n'a pas levé le poing. Il avait levé le poing au moment de sortir. Et il nous a regardé. Bon, on ne peut pas dire qu'il nous a souri, hein, puisqu'il est quand même trop mal.
On a vu quand
il est rentré dans la salle, il boitait.
Oui.
D'une de mes collègues qui était mieux placée a pu voir qu'il a failli tomber en rentrant dans le box vitré.
Je ne
pouvais pas voir parce que c'était tout à ma gauche. Mais elle a pu voir quand il était dans l'embrasure de la porte, il a failli tomber en fait. Donc c'est comme s'il avait une faiblesse au niveau du côté droit.
Oui.
Et on se pose la question aujourd'hui, puisque ça a été confirmé à l'audience du 24. Donc je demande s'il n'a pas peut-être été victime d'un AVC.
Parce que
son côté droit est un peu chancelant en fait.
Ah, oui.
Il boite, quand il marche, il vacille. En fait, c'est quand même quelqu'un qui n'a que 48 ans, c'est pas normal.
Oui, tout à fait.
Il est plutôt amaigri, en fait. Il portait des vêtements très amples, donc on ne le voyait pas. Mais moi, j'ai bien regardé et j'ai bien vu qu'il avait l'air très taffé sur son siège. Ses gestes sont très lents. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à dire son nom et du mal à dire son assassin de naissance. Et pourtant, c'est la seule chose qu'il a dit, en fait, dans l'audience. Donc, c'est pas normal. Ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir un procès.
Tout
ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui entend tout ce qui se dit dans la cour. Je ne le crois pas, en fait. Il n'est pas en état. Et normalement, de ce fait, comme l'accusé ne peut pas entendre ce qui se passe, cette audience devrait être suspendue.
Elle perd tout son sens, bien sûr.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, cela dit, je pense que la présence du public l'a galvanisé, je lui ai donné de la force. Parce qu'il regardait les journalistes, il regardait le public, et à un moment donné, il a appelé plusieurs fois son avocate. Il lui a parlé, ce qu'il ne faisait pas avant.
Voilà.
À la fin de l'audience, il s'est même levé pour lui parler. Avec des gestes, on a compris qu'il lui demandait quelque chose, ce qu'il a balayé d'un revers de main, où on n'entendait pas, mais on le voyait au geste, quelques gestes de balayer, de refuser. D'ailleurs, elle ne le regardait pas, elle ne le regardait pas dans les yeux, elle ne lui a pas dit bonjour.
Ah oui.
Très étonnant quand même. Non, elle ne lui a pas dit bonjour.
Mais elle est à l'extérieur de la cage.
Gareth Pierce ne regarde pas Julian Assange.
Mais elle est où par rapport à lui? Lui, il est dans la cage et elle est où, elle?
Elle est assise, donc quand vous êtes dans la salle d'audience, le box vitré est à gauche avec Julian Assange. Nous, on est au fond, le public est au fond. Gareth Pierce est au premier rang, à gauche. Donc elle est tout près de Julian Assange, en réalité, tout près du box de l'accusé. Elle a le droit de se lever et lui parler, hein. Elle peut tout à fait se lever. À tout moment, elle a le droit de le faire. Hein. C'est absolument pas interdit, on l'a bien vu. Hein.
Et elle ne le fait pas.
Non, elle ne le fait pas. Là, elle l'a fait uniquement parce qu'il l'a appelé et c'est pour lui refuser quelque chose. Même quand Julian Assange comparait en vidéo, elle a tout à fait le droit de se lever et l'interpeller via la vidéo. Elle ne le fait pas.
Bien sûr.
Et lui non plus ne le fait pas dans ce sens qu'on voit bien. Soit n'a pas la force, soit carrément il n'entend peut-être même pas ce qui se passe quand il est en vidéo.
Voilà, ça dépend. J'ai pas du tout le relais qu'il a du son.
C'est en vidéo.
Voilà. Bon, alors tout ça n'est pas très encourageant. Bon, passons à l'audience donc du 23 de ce vendredi, qui était une audience de procédure, je crois.
Oui, tout à fait. Alors c'était une audience case management hearing, c'est-à-dire une audience d'organisation de la procédure. Alors après, comment vous dire? Le problème, c'est que nous, on est obligé parfois de prendre pour argent comptant ce qui se passe. Or, parce qu'on n'a pas assez d'expérience des tribunaux anglais, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Or, on a quand même lu le traité bilatéral d'extradition de 2003, signé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis,
qui s'appelle
l'Extradition Act de 2003. Eh bien, en fait, ce qu'on y a lu, c'est que c'est pas comme ça que ça devrait se passer.
Ah bon?
On se demande s'il n'y a pas aussi encore des vices de procédure ou des choses carrément illégales ou fausses dans cette procédure. Pourquoi? Parce que normalement, Julian Assange est en détention provisoire, mais il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt.
Exact.
Il est passé directement.
Exact.
Voilà, il est passé le 22 septembre, il a été libéré de la punition qu'on lui avait infligée pour viol de liberté conditionnelle.
Tout à fait.
Et le 20 septembre, c'était la première audience à laquelle j'avais assisté et où il n'avait pas comparu et son avocate n'était pas là. C'est là qu'un mandat d'arrêt aurait dû être présenté. Ce mandat d'arrêt n'a jamais été présenté. Donc en fait, il est peut-être en prison de façon totalement illégale.
Voilà, exactement.
Et la deuxième chose, c'est la lecture de l'acte d'accusation. Normalement, l'acte d'accusation aurait dû être lu. Or, il n'a pas été lu. Ni le 21 octobre, ni à aucun moment, on n'a pas entendu l'acte d'accusation. Vous entendrez beaucoup parler du grand jury ceci, grand jury cela. Le grand jury aux États-Unis, c'est une institution, je dirais, juridico-politique typique des États-Unis, n'est-ce pas, des citoyens tirés au sort, comme une enquête parlementaire,
oui.
Une enquête et décide que la justice doit se pencher sur tel ou tel problème, un peu comme une enquête parlementaire. Disons par exemple l'enquête parlementaire... sur Benalla, n'est-ce pas? C'est
oui,
le
oui.
parlementaire qui a fait ça, n'est-ce pas?
Qui a
découvert le pot rose. Ben, aux États-Unis, l'équivalent aurait été un grand jury, n'est-ce pas?
Et là, il n'y a rien.
Et le problème, c'est que ce n'est pas une instance judiciaire. Pour eux, peut-être oui. Mais cette instance judiciaire n'est pas valable en Europe, sur le sol européen. Or, dans la diplomatie, il y a l'histoire de la réciprocité. Normalement, une instance judiciaire d'un pays européen n'accepte un acte d'accusation venant par voie diplomatique d'un autre pays. C'est une instance judiciaire équivalente qui le fait.
Bien sûr.
Donc ce n'est pas transposable. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont fait un grand jury qu'automatiquement, nous, on va tous se précipiter et le ministère de la Justice et les tribunaux anglais doivent tout de suite le valider. Ben non, ça serait passé en France. Le ministère de la Justice français, et surtout le tribunal français aurait dit attendez, hein, c'est pas un acte d'accusation, messieurs, dames, formulez un acte d'accusation, on va l'examiner, on va voir, etc. Donc il y a beaucoup de choses, hein, qui sont très bizarres dans ce tribunal, et on est quand même à quasiment un mois du full extradition hearing, c'est-à-dire de l'audience finale. On n'a toujours pas entendu d'acte d'accusation. Avant d'aborder justement vous décrire ce qui s'est passé à l'audience, moi je pense que ça c'est très important de le souligner.
Ah, je pense que c'est central. C'est central.
Parce qu'on aimerait un peu en savoir plus. Hein. On aimerait que quand même le tribunal britannique soit un peu plus explicite sur ça.
Parce qu'on aura une espèce d'effet de la justice européenne et britannique se couchant devant les procédures à la mode états-unienne sans regarder son droit à elle, quoi. Quelque chose comme ça.
Oui, et je me demande, et ça c'est illégal quand même, hein,
parce
que l'acte d'extradition, il dit qu'il doit y avoir quand même un acte d'accusation qui est formulé déjà par les instances britanniques. Le procureur doit lire un acte d'accusation et l'accusé doit le comprendre.
Bien sûr. Et puis c'est autour de ça que s'organise sa défense. Comment organiser une défense si on n'a pas d'acte d'accusation?
Exactement.
Ça devient ahurissant.
Bon. Exactement. Et là, donc, ça nous pose problème quand même, surtout que, de nouveau, qu'est-ce qu'on a entendu lors de cette audience? Donc, de nouveau, hein, je ne vous refais pas tout l'historique, hein, c'est de nouveau attendre 4-5 heures,
oui,
être debout là à 5 heures du matin, devoir se battre pour être sûr de rentrer, faire attention à la resqi. Il y a eu tellement de resqi cette fois-ci. Que certes, on était 4 ou 5 de Wiki Justice à rentrer, mais une de nos collègues anglophones qui était arrivée 12e n'a pas pu rentrer parce que des gens lui sont passés sous le nez, et puis hop, elle était 13e et il n'y avait que 13 places.
Ouais.
C'est pas très normal non plus que lors d'une audience aussi importante, Julian Assange soit présenté en vidéo. Donc il devrait être physiquement présent pour bien entendre. Et là, cette fois-ci, je vous assure que je suis 100% sûre qu'il n'a rien entendu. D'une part, on nous l'a montré en vidéo extrêmement loin, beaucoup plus loin. C'est comme si la caméra était placée au moins à 10 mètres de lui, ce qui fait que nous, on le voyait comme s'il était à 100 mètres.
D'accord.
On voyait pas bien son visage. Bon, on le voyait en entier, donc on pouvait voir un peu que ses gestes. On voyait notamment qu'il est rentré en vacillant. Il était posé sur son siège, il n'a pas bougé pendant 45 minutes.
Oui.
Il avait des mains, parfois ses mains bougeaient, mais d'une façon un peu désordonnée. Il n'avait pas l'air d'entendre. Il était immobile. On se demandait même pas s'il n'est pas endormi ou évanoui, quoi, parfois. Ouais. Je vous assure, hein, c'est quand même effrayant quand même quand on voit ça. Et le pire, et ça c'est très important, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu des mains et des jambes bouger à l'écran d'une personne qui était placée un peu à droite de Julian Assange, mais dont le corps débordait sur l'écran. Donc il y avait quelqu'un qui était en face de lui et qui le regardait.
Voilà.
Mais attendez, ça c'est le Moyen-Âge. Normalement, à procès, l'accusé est libre.
Bien
ça c'est au juge. Voilà. C'est pas normal. Personne n'a le droit de le contrôler quand même. On est quoi? C'est une salle d'interrogatoire ou quoi là?
Ce procès
est totalement inique. C'est pas normal ça.
Qui était ce personnage et que faisait-il, Louis?
Quelqu'un de la prison. Hein. Mais donc, en plus, ce n'était même pas marqué HP Belmarche. Hein. Sur le panneau, il y avait un petit écriteau au-dessus de la tête de Julian Assange. C'était marqué donc HMP, mais il n'y avait pas marqué Belmarche. Hein. On n'est pas très sûr que c'était réellement dans la Belmarche ni dans une prison. Ça pouvait être n'importe quel bureau de la police, en fait. Une salle d'interrogatoire. Donc ça, c'est absolument pas normal. Ça, c'est un grand vice de procédure. Au niveau des vices de procédure, il y a encore une autre chose que je suis obligée de signaler. Ça, c'est très important. C'est que parmi les avocats, entre guillemets, il y a une personne qui rentre dans la salle depuis le 13 janvier, qui est un jeune garçon qu'on avait déjà remarqué dans le public le 19 décembre et le 20 décembre. Un jeune homme hein, d'environ entre 15 et 20 ans.
Ah bon?
Donc il nous avait déjà intrigué, oui, tout à fait très jeune. J'étais allée le voir et je lui avais demandé qui il est, simplement pour savoir quel rôle il joue.
Bah oui.
Le 19 décembre, j'avais demandé qui il est, il m'avait répondu qu'il est stagiaire de Gareth Pierce, stagiaire de l'avocat de Julian Assange.
À 15 ans?
Voilà, stagiaire, quoi. Bon, moi, je me suis dit, bon, il ne ressemble pas vraiment à un avocat stagiaire, il n'est pas habillé en costume, voilà, il n'a pas de porte-documents, il avait parfois des comportements un peu bizarres, comme s'asseoir par terre lors d'une audience, bon, c'est très, très étrange. Mais bon, admettons. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il était, le 13 janvier, il était rentré au secrétariat, il était donc inscrit au secrétariat pour être parmi les avocats. Et il était dans la salle d'audience parmi les avocats de Julian Assange. Et là, le 23, il était aussi parmi les avocats de Julian Assange. Or, on a retrouvé via sa photo, on sait qui c'est en fait, on a retrouvé son nom. Il s'appelle M.C. McGrath.
Oui.
C'est un hacker et un informaticien.
Oh là là.
qui a collaboré avec Wikileaks en 2013,
voilà.
Qui a créé des outils pour contrer la surveillance, ça s'appelle Transparency Toolkit. Il a travaillé sur les documents de Snowden, etc., etc. Il est probablement américain, diplômé d'université américaine. Rien à voir, alors déjà il fait plus jeune que les 25 ou 30 ans qu'il est censé avoir, puis qu'est-ce que, n'est-ce pas, il est quand même diplômé, n'est-ce pas, il est diplômé en informatique.
Donc, bien sûr.
Il n'est absolument pas avocat, et il n'est pas avocat stagiaire. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est avocat stagiaire en Grande-Bretagne doit quand même avoir fait ses études en Grande-Bretagne.
Ah oui.
Peut-être qu'il n'est pas obligatoire qu'il ait la nationalité britannique, c'est à voir, mais quand même, il doit avoir fait un bac plus 4 en droit, et puis après, une application en tant qu'avocat. Enfin, attendez, hein, on se demande si le tribunal, il vérifie vraiment les diplômes d'avocat des gens qui l'inscrivent, quand même. C'est pas normal, ça. Ça, c'est un très gros vice de procédure. Cette personne n'a rien à faire dans cette salle, ou bien n'importe qui peut y rentrer.
Bon, ben, au point où on est dans ça, alors, on est au début donc, de la procédure. Quelles sont les étapes donc, à venir ?
Alors, d'après ce qu'on a entendu, donc, toute cette audience, c'était en fait comme un long dialogue entre l'avocate d'accusation Claire Dobin, Edward Fitzgerald, l'avocat de Julian Assange, le barrister, et la juge Vanessa Bereitzer. Et en fait, c'était comme une espèce de partie une espèce de dialogue sur... le programme, comment on va en finir avec cette affaire, n'est-ce pas ? Donc il y avait beaucoup de questions de date, de nouveau, etc. Donc surtout l'accusation avait quand même parlé des intérêts des États-Unis, en disant que les intérêts des États-Unis, ça serait de faire côté américain une expertise de la santé de Julian Assange. Nous, on est totalement opposés. Ce n'est pas aux Américains d'expertiser la santé de Julian Assange. On n'est pas d'accord avec ça. C'est la partie accusatrice. Elle n'a pas à avoir accès à l'accusé de cette façon, n'est-ce pas ?
Oui.
On est formellement opposés. Je pense que les citoyens doivent s'opposer à ça très fermement. Donc, moi, ça ne m'a pas échappé qu'on en a parlé. Et après, il était question d'un procureur qui n'a pas le temps parce qu'il est occupé avec une histoire en Irlande du Nord. Donc, comme il n'est pas disponible au mois de février, les audiences finales seront en partie reportées au mois de mai. Bon, nous, ça ne nous intéressait pas beaucoup de savoir quel procureur, pourquoi ce procureur.
Non, bien entendu.
Il y a un autre procureur. On n'a pas très bien compris pourquoi c'est absolument ce procureur Lewis qui doit être là.
Voilà.
Toujours est-il que l'avocat de Julian Assange était d'accord avec ce report d'audience au 18 mai. Bon, on n'a pas compris pourquoi. Mais on avait vu une espèce de connivence entre Edward Fitzgerald et Claire Dobin. Bon, ils se connaissent tous, il ne faut pas oublier.
Bien sûr.
Je répète encore une fois que le système britannique permet aux avocats de travailler, de se connaître, d'être même dans les mêmes cabinets d'avocats, les mêmes chambers, et de travailler pour deux parties adverses, n'est-ce
bien
pas
sûr,
ce qui pour nous est complètement aberrant, mais chez eux c'est légal.
Donc
ils se connaissent tous, n'est-ce pas? C'est logique, hein, ils se connaissent, ils mangent ensemble, ils ont des relations privées, bon c'est logique, n'est-ce pas? Moi, on trouve ça aberrant, mais bon, c'est légal, n'est-ce pas, dans le système britannique.
Mais alors, de janvier à mai, tout ça fait 4 mois à passer sans que la santé de Julian Assange puisse s'arranger.
D'une part, il y a ça, puis d'autre part, on ne comprend pas pourquoi il faut attendre 4 mois. Il y a aussi ce que Edward Fitzgerald a posé, c'est la Spanish Procedure. Le Spanish Prosecution, c'est l'affaire en Espagne.
Oui, oui.
La plainte qui a été déposée pour la surveillance effectuée dans l'appartement équatorien. On ne sait rien, toujours rien. Nous, en tant que citoyens, on ne connaît encore rien, parce que les avocats de Julian Assange ne disent rien, donc on ne sait pas si Assange est plaignant, s'il est témoin, on ne sait rien du tout. Toujours est-il que cette procédure est importante, puisque Edward Fitzgerald a donné comme prétexte cette procédure pour être d'accord avec Claire Dobin en disant oui, c'est bien de reporter une partie des audiences au mois de mai, puisque entre-temps nous aurons des témoins qui vont témoigner dans le Spanish Prosecution et ils viendront témoigner après au procès de Julian Assange. Donc il y a quelque chose où il y a des témoins communs en fait. Voilà, donc, et donc ça c'est très important visiblement pour la défense de Julian Assange, on ne sait pas pourquoi. Et effectivement, donc pour stabiliser les dates, donc ils se sont tous mis d'accord sur le fait que le 19 février, il y aura encore un dernier case management hearing très important, donc la date du 19 février, qui sera aussi une date de prolongation de détention provisoire. Vous voyez, la détention provisoire, elle est prolongée.
Exactement.
Ça, c'est pas très légal aussi, à mon avis, mais bon, ça, il faudra encore qu'on creuse. Et après, donc, du 24, la semaine la plus importante, ça sera du 24 février au 29 février, donc la dernière semaine de février. Encore une autre semaine au mois mois de mars, puisqu'il y a beaucoup de témoins à écouter. On ne sait pas qui sont ces témoins. Hein. L'avocat de Julian Assange en parlait, mais il citait que des numéros. Témoin numéro 4, témoin numéro 6, témoin numéro 12. D'accord. Est-ce que celui-là sera présent? Est-ce qu'il ne sera pas là? Etc. Donc c'était, on n'avait pas entendu de nom ni même d'initial. Et après, il y aura donc une coupure. Il y aura quelque chose qui va se passer le 27 mars, mais je dois vous avouer que ça s'est dit à la fin et je n'ai pas très bien compris, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'audience est interrompue, on nous chasse de la salle et après, elle finit une demi-heure plus tard. Donc, souvent, le temps que l'on se réinstalle, on a dit, oui, tout à fait, ces deux audiences ont été interrompues. Hein, et le 13 janvier, Julian Assange a été rappelé à 14h. On a pu le revoir à 14h. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a ces coupures. On se demande s'il n'y a pas dans les coupures des ententes faites entre les avocats.
Voilà, toute une cuisine, oui, tout à fait.
C'est aussi, malheureusement, souvent fréquent et c'est considéré comme légal en Grande-Bretagne. Et après le 18 mai, ça doit reprendre jusqu'à la fin. Bien sûr, Julian Assange peut ne pas tenir d'ici là.
Et voilà.
Sa santé est aussi mauvaise et il peut mourir entre-temps. Mais j'ai envie de dire, non, on ne va pas laisser faire. Hein. On va se battre, on va prouver la torture et on va porter plainte.
Voilà. Et puis il faut peut-être le faire sortir tant qu'il y a encore.
Tous les mois, je répète encore une fois, l'avocat a la latitude de faire une demande de libération.
Voilà, c'est tout.
Simplement une simple demande de libération parce que cet homme est innocent.
Exactement.
C'est pas parce qu'il y a une demande.
Exactement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune culpabilité.
Par exemple, prenez-vous en tant que citoyen. Les États-Unis font une demande d'extradition à la France, ou n'importe quel autre pays, allez, l'Argentine, je ne sais pas, l'Afrique du Sud. C'est pas pour ça que vous devenez coupable dans votre pays.
Exactement.
Quand même, hein.
Exactement.
Pas du tout, moi-même. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément vrai. Il faut encore le prouver, n'est-ce pas?
Exactement.
Et là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour raison de santé. Tous les mois, l'avocat de Julian Assange peut faire cette demande. Une association des droits de l'homme britannique peut la faire aussi.
Et personne.
Puisque, notamment, d'autant plus que maintenant, nous avons les rapports médicaux sur la torture.
Exactement.
N'importe quelle association des droits de l'homme britannique, il devrait y en avoir quand même. Hein. Donc,
je l'imagine.
Le faire. Bon, pour le moment, on n'en voit pas encore qui se mobilise. Hein. Mais, bon, moi, l'espoir que j'ai, c'est que malgré tout, il y avait des citoyens très mobilisés le 13, qui ont quand même assiégé la voiture, qui ont pu faire des signes à Julian, n'est-ce pas, par un travers la vitre, il les a vus, il a entendu les citoyens, il a vu qu'il n'était pas tout seul.
Voilà,
donc ça
c'est
lui a donné
important.
Peut-être un tout petit peu de courage. Le problème, c'est que le revoyant en vidéo le 23, on se demande si...
L'impression n'était pas... Voilà,
n'est-ce
tout
pas
à
parce qu'il avait l'air vraiment particulièrement mal en point, comme je vous dis, endormi ou évanoui. Là, maintenant, on entend qu'il est soi-disant sorti de l'isolement, mais on demande à voir, hein, il nous faut des preuves.
Quelle
hein.
preuve
Pour le moment, on n'a aucune preuve. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai.
Exactement. Monica, encore merci. On aura sûrement l'occasion de se recontacter par téléphone puisque décidément on a une affaire à rebondissement avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup surtout de secrets ou de non-dits dans ce qui devrait être une justice ouverte sur le peuple. Grand merci.
Merci beaucoup.
À très bientôt, Monica.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Voilà. Alors, quand on ajoute... que on ne sait pas vraiment où il est, c'est-à-dire il est,
on
est voilà, non, on dit qu'il est dans cette prison, mais en fait personne ne voit le convoi qui l'amène. On ne sait pas s'il a. Alors, ce qui a circulé ces jours-ci, c'est qu'il était passé de l'isolement à l'infirmerie, mais ça, c'est des rumeurs qui courent. On le tient certains de prisonniers. C'est-à-dire, il y a des prisonniers qui, au parloir, parce que c'est une prison très vaste où il y a différents quartiers, etc. Au parloir, on aurait dit à quelqu'un venu les visiter. Il paraît que enfin, tout ça est de l'ordre des hypothèses. L'endroit où il est filmé pour les audiences peut être n'importe où. Peut-être dans un commissariat quelconque. On ne sait pas physiquement s'il est dans cette prison-là, s'il est ailleurs. Alors, je reviens aussi sur la question de l'appartement équatorien que Monica a évoqué. Il faut savoir qu'entre le moment où Julian Assange est rentré, donc accueilli, protégé par l'Équateur dans l'ambassade de l'Équateur, l'ambassade de l'Équateur a déménagé. A quitté ce quartier-là, et Julian Assange est resté seul avec ses gardiens dans un appartement appartenant à la République équatorienne qui n'était plus un local diplomatique. Et c'est là, probablement, qu'il a été espionné par cette société espagnole dont on a évoqué l'activité d'espionnage, et cette société espagnole qui a vendu toutes ses bandes aux États-Unis, tout ce qu'elle a filmé de Julian Assange, y compris ses examens médicaux. Donc on est dans une zone de trouble total. Alors il faut se réjouir, il y a un peu de pression maintenant des militants comme Monica qui viennent régulièrement aux audiences. Il y a maintenant un groupe de gilets jaunes qui suit l'affaire et c'est très bien. Et ils étaient là. Famille. Alors, il a un père qui est australien, qui se démène comme un beau diable pour dire « laissez libre mon fils », mais que le gouvernement australien n'écoute pas. Le gouvernement australien, il faut le situer dans la galaxie diplomatique actuelle, c'est certainement le plus docile des gouvernements anglo-saxons par rapport à la politique des États-Unis. Et donc, il ne fera absolument rien. Hein, je le mets dans un camp assez différent de la Nouvelle-Zélande, qui quelquefois a des velléités de plus d'autonomie, mais le gouvernement israélien est totalement aligné, anti-chinois par principe, etc. Bon, donc, il n'y a rien à attendre. Et le père de Julian Assange essaye bien, mais il est peu écouté. Et donc, le gouvernement australien laisse ce citoyen australien entre les mains d'une justice très trouble, parce que tout ce qui ressort des propos du NICA, c'est le trouble. Une durée excessive, des conditions de détention qui ne sont pas claires, des durées de visite. Alors, les avocats ont le droit de visite, mais c'est 2 heures. Alors, il se peut très bien que le jour de la visite de l'avocat, on le mette dans un endroit qui est présentable, où l'avocat ne peut pas se plaindre, mais les autres jours, entre tous les jours qui se passent, on ne sait pas ce qu'il fait, où il n'est pas filmé, qu'est-ce qui lui arrive, et pourquoi il est dans l'état où il est. Donc, on a vraiment
Moi,
des...
Je ne comprends pas son avocat. Pourquoi ça se passe comme ça?
Alors, on est... Mais elle n'en a pas reparlé cette fois-ci. Elle est très, très inquiète sur la façon de faire. Très, très inquiète, puisque l'avocat pourrait demander sa mise en liberté provisoire. Elle ne le fait pas. Et la demande en liberté, elle a été déposée par Wikijustice.
Il y a une pression sur l'avocat.
Donc, il y a des pressions sur l'avocat. Il y a, je pense, au niveau du gouvernement britannique, même s'il a changé, une difficulté à se mettre en travers du bulldozer états-unien. Tout ça doit jouer. Mais on a un cas extrêmement inquiétant, et puis on a un personnage qui est en très très mauvais état. Alors, tiendra-t-il jusqu'au mois de mai? Alors là, il peut y avoir des évolutions, parce qu'il y a un ancien ministre italien qui a commencé à parler du cas, et tenez-vous bien, surprise, cette semaine, Paris Match consacre un grand article à Julian Assange pour dire que c'est pas normal ce qui lui arrive, hein, et pour dire qu'on n'a rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il a dit la vérité. Alors, on connaît la chanson, le premier qui dit la vérité, mais ce ne sera pas le cas. Voilà. Alors, pourquoi Paris Match? Ben, on ne sait pas, hein, mais il faut profiter de cette surprise. C'est mieux que certains journaux dits de gauche français qui n'ont rien dit et qui continuent à rien dire. Bon, si Paris Match le fait, ben, prenons Paris Match le fait, peut-être de bonnes raisons, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de gens dans différents pays d'Europe, en dehors de la Grande-Bretagne, qui disent, on devrait, nous, offrir, nous, il y a des gens en France qui disent, le gouvernement français devrait offrir l'asile politique à Julian Assange. Ça a été dit en Italie, certains l'ont dit en Allemagne. Ça peut être une façon de desserrer la pression sur le gouvernement britannique. On en reparlera sûrement, et on profitera toujours des témoignages si vivants de Monica, parce qu'elle nous fait comprendre comment ça se vit au quotidien. Et encore, elle n'est pas dans la cage de verre. Elle est dans ceux qui attendent le matin depuis 5 heures et qui sortent de là beaucoup plus tard. Voilà, pour cette affaire-là. Alors, puisque je suis en Grande-Bretagne, j'y reste. La semaine prochaine, quand nous aurons la nouvelle émission des Carnets de Comaguerre, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne.
Ouais.
Hein? Alors, non, c'est important de le rappeler, parce que c'est possible, ça va se faire, ça s'est fait. Il est possible de quitter l'Union européenne. Qu'on se le dise, hein, on n'est pas à marier définitivement avec les 26 autres. Hein, si on n'est pas d'accord, on peut le dire. Alors, on l'a déjà dit, je me souviens d'un certain référendum en 2005, on le redira encore autant de fois que nécessaire. Et je signale, pour donner des chiffres, on parle beaucoup argent, retraite et tout, que tous les ans, la République française donne 21 milliards à l'Union européenne pour lui permettre son fonctionnement, même si son fonctionnement ne défend pas toujours les intérêts nationaux. Voilà pour Londres, et on y reviendra. Et puis, je vais profiter donc des derniers moments qui nous restent pour parler un peu de ce qui s'est passé du côté de l'Est, du côté de Moscou. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, et il va surtout se passer beaucoup de choses à la frontière de la Fédération de Russie, puisque dans les jours qui viennent, vont se tenir des manœuvres de l'OTAN qui vont mettre en mouvement entre 20 et 30 000 soldats de différents pays membres de l'OTAN, aux frontières même, le plus près possible de la frontière russe, hein, au cas où ils ne sauraient pas où elle est, ils savent très bien où elle est. Ils vont surtout encercler la fameuse enclave de Kaliningrad, vous savez, qui est coincée entre la Lituanie et la Pologne, mais qui est un territoire de la Fédération russe, qui, je le signale, est survolé à peu près 900 fois par an par des avions espions de l'OTAN. Bon. Bon, ils y voient qu'effectivement Kaliningrad est défendu et le sera. Ça. Mais donc ces manœuvres énormes sont destinées à montrer que l'OTAN et l'Occident sont là, forts comme, je n'allais pas dire des Turcs, parce que... On donnerait à Erdogan beaucoup de choses qu'il n'a pas encore. Et donc, la Russie est au cœur des angoisses impériales. Et d'une certaine façon, ils n'ont pas tout à fait tort d'être inquiets. Ils n'ont pas tout à fait tort d'être inquiets. Non pas, contrairement à la façon dont ils interprètent la situation, parce que la Russie les menace, mais parce que la Russie s'organise. Et je vais m'arrêter un petit peu sur les évolutions de la situation sur le plan de la politique intérieure. On a su, et vous l'avez tous su bien entendu, que dans sa conférence sur l'état de la Fédération de Russie, que Vladimir Poutine avait tenue il y a de ça une dizaine de jours, il avait annoncé une réforme de la Constitution et toute une série de mesures. Il avait fait une espèce de programme de travail pour un gouvernement à venir. Alors il y avait là tellement de choses inattendues en partie que les observateurs politiques un peu partout sont restés un peu dans l'expectative, sachant pas exactement quelles conclusions tirer, quand, comment, qui, quoi, la réforme de la Constitution, une nouvelle équipe, dans quelles orientations, etc. En fait, tout est allé très vite. Tout est allé très vite comme si, d'une certaine façon, ça arrive, vous savez, dans des jeux d'échecs, il y a un pion qui est déplacé et on ne perçoit pas tout de suite le fait que le mouvement de ce pion est en train de changer complètement le cours de la partie. Or, c'est en train de se faire exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas passé 48 heures après cette annonce donc, d'un changement de la Constitution, du changement des règles de travail, du changement des objectifs, en particulier l'objectif social, l'objectif démographique, etc., avant que la Russie ne se dote d'un nouveau gouvernement, que Dmitri Medvedev démissionne. Ça a été très vite fait. Pratiquement dans la journée suivante, il y avait un cabinet qui était constitué. Et il faut s'arrêter un petit peu sur ce... Donc, ce gouvernement s'est aussitôt mis au travail, tout à fait dans le cadre des objectifs fixés par le président. C'est-à-dire, on a un retournement, pas un retournement, il n'y a pas bouleversement, mais il y a des axes qui ont été fixés, des objectifs qui ont été fixés par Vladimir Poutine, et tout ça est en train de se mettre en œuvre très très rapidement. Le gouvernement travaille, la Douma a déjà voté les amendements à la Constitution qui étaient demandés par le président. Je rappelle qu'il y a en particulier un article qui prévoit que désormais les lois de la Fédération russe s'imposent contre les lois internationales, dans le cas où il y a contradiction, bien entendu. La loi, donc il y a une volonté de souveraineté qui est manifestée. Il y a une volonté de faire de la Fédération russe une république sociale. Je ne dis pas socialiste, on n'en est pas là. Hein, mais une république sociale, parce qu'il y a beaucoup de terrain à refaire. Parce que les oligarques au pouvoir, ceux qui tournaient autour de Medvedev, etc., avaient tendance surtout à faire avancer leurs affaires plus que la santé et la prospérité du peuple russe. Et ça se savait. Ça, c'est très très clair. Donc dans les objectifs, ils sont sociaux. Ils sont à la fois techniques, puisqu'il y a un retard manifeste en informatique, etc., qui est à rattraper, donc c'est programmé, c'est en cours. Il y a donc un arrêt de la chute démographique, c'était déjà commencé, puis il y a toute une série de mesures qui vont aller dans ce sens, crèche, allocation familiale et tout. Donc on a un pays qui est en train de se donner les moyens d'avoir un avenir, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont pu espérer certains entre 91 et 99, c'est-à-dire que cette Russie allait tomber par petits morceaux dans les escarcelles des grands capitalistes internationaux, ça c'est fini. Ça c'est fini et ça s'est concrétisé. Alors c'était déjà en cours. Poutine, il n'a pas inventé ça tout d'un coup, un jour d'insomnie. C'était déjà en cours. Ça s'est concrétisé extraordinairement rapidement, comme une sorte de précipité chimique. Tout était en œuvre. Il a suffi de rajouter la goutte d'eau ou la goutte d'acide du discours présidentiel et tout a pris instantanément. Dans les équilibres géopolitiques globaux, il est clair que les équipes qu'on appelle les Eurasiens ou les Eurasiatiques dans l'équipe de Vladimir Poutine et donc maintenant du nouveau Premier ministre Michouchine, ce sont le ministre de la Défense, Shoigu, et le ministre des Affaires étrangères que tout le monde a vu sur les écrans, Lavrov. Deux hommes de poids qui sont restés à leur poste. Je signale d'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'Eurasie, que Shoigu, c'est un Sibérien. Hein, voilà, rendez-vous compte. Alors, inquiétude, parce qu'il y a beaucoup, pour beaucoup de gens ici, la Russie, ça se termine à l'Oural. Non, il y a encore beaucoup, beaucoup de place. Et d'ailleurs, il y a dans le gouvernement Michouchine un ministre en charge du développement de l'extrême-est. Donc ils savent que c'est absolument stratégique. Hein, la Russie, ça se finit. Ça se finit au détroit de Bering, pas avant. C'est ça. Tout ça prend corps et c'est très intéressant de le constater et de reconstater la rapidité du phénomène. C'est pour ça que je parle de précipité au sens chimique. Vous ajoutez juste la dose qu'il faut et tout d'un coup, le mélange se prend et la couleur du précipité a changé. C'est ça qui s'est passé en Russie ces derniers jours. Il faut en avoir conscience et ça suscite, bien entendu, les réactions excessives de l'OTAN répondent à ce phénomène-là. Mais en fait, il est clair que au niveau militaire, toutes les annonces faites il y a 2 ans donc, par le président russe et concrétisées, c'est-à-dire que tous les nouveaux matériels hypersoniques, sous-marins, missiles balistiques, etc., dont la construction a été annoncée en 2018 par Poutine, sont opérationnels. Donc effectivement, et au Pentagone c'est connu, la domination, enfin la supériorité militaire de la Fédération russe est acquise. Et dans un cadre qui est tout à fait clair, c'est-à-dire que la Russie dit « vous ne viendrez pas chez moi, vous ne mettrez pas les pieds ici, je me défendrai bon. ». Le message est parfaitement clair. Alors Stoltenberg envoie ses milliers de soldats pour faire des ronds autour le long de la frontière russe. Ça ne change rien à rien, si ce n'est en fait un aveu d'échec. Hein. Je montre mes muscles, mais en fait je ne prends pas de risque parce que je sais bien que je ne pourrai rien faire. Voilà, tout ça, c'est une évolution tout à fait importante. Alors, il y a aussi l'évolution, mais ça fait partie de cette affirmation de la Russie, qui prend la forme aussi d'un rappel du rôle de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ça avait commencé, on en avait parlé, au moment où Poutine avait, à l'issue d'une réunion de l'Union économique eurasiatique, réuni les présidents des différents pays de la communauté des États indépendants et leur avait raconté l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, non pas comme un conte d'enfant, mais avec des documents qu'il avait sortis pour l'heure et qui sont en train de se multiplier, puisqu'il y a désormais un site qui met en ligne des documents des archives soviétiques qui expliquent tout ça. Pour rappeler donc que c'est effectivement l'URSS qui a porté le plus gros de la guerre contre le nazisme et qui a réussi à l'éliminer le nazisme, je signale, et je rappelle toujours cette différence, c'est-à-dire que le nazisme a été éliminé parce que l'armée rouge est allée jusqu'à Berlin, jusqu'à ce qu'elle puisse faire tomber et prendre les dirigeants du Reich, à l'exception d'Hitler qui s'était suicidé avant leur arrivée, ce qui ne s'est pas fait de l'autre côté, c'est-à-dire que les États-Unis ont laissé l'empereur du Japon à son poste et ont laissé le Japon avec ses idées impérialistes qui nourrit encore dans certains cercles, tel qu'il était. Il n'y a pas eu d'achèvement donc, de l'impérialisme japonais alors que le Reich a été détruit physiquement. Je rappelle à ceux qui veulent pas le savoir que la bataille de Berlin, c'est-à-dire au moment où l'armée rouge a approché de Berlin et que donc le Reich savait que ses jours étaient comptés et qu'ils n'allaient pas pouvoir s'échapper, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans le bunker, les Göring, Goebbels et tout, savaient que c'était fichu. Bon. La bataille de Berlin a coûté 300 000 morts à l'armée rouge, 300 000 morts en une bataille. Bon, c'est ça l'échelle des choses, de la même façon que la libération de Varsovie en a coûté au moins, pas tant, mais 20 ou 30 000 morts de l'armée rouge pour libérer Varsovie, sans oublier bien entendu la libération des camps de concentration, puisque Poutine en a profité de sa visite à Jérusalem au moment où on fêtait le 75e anniversaire de la libération des camps, pour dire que la libération des camps, dont la plupart, alors, il faut savoir que dans les camps allemands, il y avait 2 catégories à l'origine, il y avait les camps de concentration classiques, qui étaient des camps de prisonniers, donc Buchenwald, Dachau, etc., qui ont été remplis dès 1933 de militants allemands, et puis après de prisonniers français, belges, etc. Et puis il y avait les camps d'extermination qui, pour la plupart d'entre eux, étaient situés sur le sol polonais. Quand on vous parle de Treblinka, Auschwitz, Sobibor, tout ça, c'est sur le territoire de la Pologne. Bon, tous ces camps-là ont été libérés par l'armée rouge. Ça, il faut le savoir. Autrement, on savait pas. Les Allemands savaient très bien ce qui s'y passait. Autrement, le monde entier pouvait avoir des doutes, mais n'avait pas de preuves. Les preuves, on les a. Et donc, Poutine a rappelé qu'effectivement, c'est l'armée rouge qui avait libéré les camps. Et il a rappelé à cette occasion aussi que l'armée rouge, dans ses mouvements, avait aussi sauvé 2 ou 3 millions de Juifs qui étaient sur son trajet, en sachant que si jamais les nazis les attrapaient, ils allaient mourir. Tout ça fait partie de l'histoire telle qu'elle devrait être écrite et de la façon dont elle ne l'était pas.
Les documents.
voilà, il y a maintenant alors ce mouvement-là est lancé, donc il est clair que Poutine, maintenant, à chaque occasion, va mettre les choses au point. Alors il y aura bien sûr des manifestations de mécontentement ici et là, mais il a d'abord la vérité pour lui. Il a, hélas, mais il en a quelques historiens français, britanniques et tout qui roulent pour lui, enfin qui disent ce qu'il doit dire, que ce qu'il dit est correct et vrai. Donc la chose va peut-être revenir à une juste vérité, c'est-à-dire que, et il rappelle par exemple que à un moment donné. Staline a décidé d'accélérer son intervention en Pologne, parce qu'il fallait quand même, ils avaient déjà fait un certain nombre de milliers de kilomètres avant d'arriver en Pologne, et quand il a vu qu'effectivement, vous savez que donc à la fin de 1944, l'armée allemande, dans son repli du territoire français, mène un dernier combat qu'on appelle la bataille des Ardennes, qui effectivement donne pas mal de fil à retordre aux armées alliées qui sont arrivées de l'Ouest, et c'est du fait que l'armée allemande est donc mobilisé sur ce point-là, et que Staline dit il faut accélérer notre avance pendant qu'ils sont occupés, hein, c'est autant de moins qu'on aura à combattre de notre côté. Ça, alors tout ça explique aussi toute une série d'événements, c'est-à-dire qu'il y a un récit disant que l'URSS n'a rien fait qui ne tient pas debout, qu'il faudra qu'il cesse, il est en train de cesser, et c'est tant mieux, mais il est clair que le président russe a décidé de ne plus rien laisser passer de faux sur ce moment-là de l'histoire, et il le fait pas pour son bien personnel, mais je crois que d'ailleurs il est établi que lui a des morts dans sa famille, comme beaucoup de familles russes qui ont eu des morts. Il est bon de rappeler quand même qu'on est autour de 30 millions de morts civils plus militaires, qu'aucun pays n'a payé si lourd l'écrasement du nazisme.
Oh, incroyable. Bon.
Voilà. Et dans les victimes, j'en parle aussi, puisque on parlait de Londres, tout là. Il faut savoir qu'il y a en ce moment à Londres une exposition sur les gitans et les Roms, comme on dit aujourd'hui, sur l'extermination calculée des gitans par le Reich nazi. Alors, c'est pas autant de millions de morts, mais on compte qu'il y avait au moins 800 000 gitans qui ont été exterminés par le régime nazi, puisqu'ils faisaient partie des sous-hommes, alors les juifs en tête, les gitans, les slaves en général. Voilà. Il y avait une liste de sous-hommes qui a été attaqué très très sévèrement, donc 20 millions de Russes, 800 000 gitans et 6 millions de Juifs. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette Russie nouvelle. Et j'allais dire, alors ça c'est un message, j'allais dire message personnel, comme on dit sur les... C'est un message personnel pour un certain Emmanuel Macron. Dans les décisions annoncées par le président Poutine et reprises par son nouveau gouvernement, il a été indiqué que les retraites seraient désormais indexées sur l'inflation. Écoute Emmanuel, indexé sur l'inflation. Allez, il faut vite mettre ça dans le projet de loi. Vite, 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 sans perdre une minute. Hein, c'est un bon exemple à suivre. Voilà. Dernière chose que je voulais signaler. Donc, je vous l'ai dit, le Brexit, c'est pour dans quelques jours. Et puis, on en reparlera dans les semaines qui viennent abondamment, puisqu'on va reparler du traité de non-prolifération nucléaire. J'ai évoqué la question tout à l'heure. Traité donc signé en 1968, ratifié en 1970, et dont certains pays ne sont pas membres et n'ont pas signé, à commencer par Israël, l'Inde et le Pakistan. Et aussi pour dire que la Corée du Nord, qui en était sortie, qui était rentrée d'abord, qui l'avait signée, et puis qui en est sortie, l'a pas sortie parce qu'elle a décidé de faire la guerre atomique. Elle en est sortie parce qu'elle y était rentrée sous une promesse du gouvernement de Clinton de lui fournir des centrales nucléaires moins productrices de plutonium, etc., etc. Et cette promesse n'ayant pas été tenue par un certain George Bush, c'est à ce moment-là, en 2003, que la Corée du Nord a dit « Vous tenez pas vos engagements, pourquoi je tiendrai les miens ?» Et donc, ils sont sortis du traité de non-prolifération.
Comme les Iraniens, là, actuellement.
Voilà. Et alors, les Iraniens, j'en parlais tout à l'heure, le Parlement iranien a voté une motion en disant ben, « S'il faut qu'on sorte du traité de non-prolifération, on sortira. D'autres ne l'ont jamais appliqué. Suivez mon regard vers Tel Aviv. » Et il ne leur est rien arrivé et il ne leur est fait aucun reproche. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel on reviendra, puisqu'il y a à tous les 5 ans, très régulièrement, un point d'étape, un bilan du traité de non-prolifération pour savoir où il en est et comment il se développe. ça c'est un sujet d'importance. Voilà, merci. Alors pour finir, on va écouter une petite musique parce que à Marseille, il y a des manifestations contre le plan retraite et on a eu le plaisir d'entendre. Alors c'était un peu comme l'Opéra de Paris, mais c'était sur le trottoir. On a eu le plaisir d'entendre chanter le chœur des esclaves de Nabucco de Verdi sur le Vieux-Port. Au démarrage d'une de nos dernières manifestations. Donc, oui, le mouvement culturel est en cours aussi ici. Alors, ce n'est pas les chœurs de l'Opéra de Paris, mais c'était quand même pas mal et c'était très stimulant pour les manifestants. Je peux en témoigner. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Sidi.
Je vais vous parler au micro de Radio Galère. Il y a une chorale qui nous chante le chant des esclaves de Verdi.
C'est vrai que dans cette chorale, il n'y avait pas que du Verdi, il y avait aussi de l'Eugène Potier. Voilà. Merci, Sidi.